bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus sur Inter avec Leïla Kadour-Boudadi, avec Guillermo Guise, Daniel Morin,
bonjour,
Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure, et notre invité Michel Denisot. Bonjour Michel.
Bonjour Nagui.
Bienvenue.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. Michel, profession agent artistique, tel est le doc qui passera ce soir à 22h55 sur Canal+. C'est un doc. Moi, je le vois comme un documentaire, même si c'est une émission en plateau avec une table et des invités autour de la table. Mais on est dans de l'introspection et puis c'est une série en plus, comme des documentaires pourraient le faire. Il y a déjà eu plusieurs émissions autour des chefs, des créateurs de mode.
On en est à une dizaine d'émissions. On avait commencé par réalisateur. En fait, c'est un concept qui existait aux États-Unis, qui était fait par les Hollywood Reporters uniquement avec des gens de cinéma. Et donc, la boîte de prod de Xavier Mingon a repris ce concept. On a démarré par réalisateur, acteur, actrice, etc. Et on le développe aujourd'hui.
Chanteur, flic,
et aujourd'hui à d'autres professions. Et on revient vers le cinéma avec agent.
Agent artistique. On va en parler dans quelques instants, mais la véritable question que l'on se pose, évidemment, ont-ils travaillé autour de cette table? Connaissent-ils Michel Denisot?
Par
Michel,
cœur.
Ne dis rien, s'il te plaît. Que s'est-il passé l'année où Michel Denisot a présidé la cérémonie de la Palme d'Or à Cannes?
Il a plu.
Non, ça c'est régulier.
Il y a un problème d'invité, de non. président.
Il y a un problème, mais pas d'invité.
La Palme d'Or a disparu.
Exactement. Non, c'est même pire que ça. Vous l'aviez oublié.
Bravo Michel.
Oui, non. Bah en fait, non, ce qui s'est passé exactement, je ne présidais pas, je produisais. Là.
Pardon.
Et c'est qu'on nous remet deux palmes d'or avant la cérémonie. Et donc Renaud Levent-Kim qui réalisait pendant qu'on travaillait ensemble. Et je dis, on n'a pas besoin de deux palmes d'or. Et donc j'en garde une dans la coulisse pour la remettre. Et je dis, l'autre, on va la mettre dans le car. Et éventuellement, je la mettrai chez moi. Et...
Quoi?
Ah bah, un producteur.
Détournement de palme. Pardon, mais pourquoi il y en avait deux?
J'ai dit éventuellement.
Pourquoi deux? En cas d'égalité?
Alors justement, donc je dis, ils ont mis deux. Bon, je la rendrait, bon, disons, on la met de côté, etc. Et j'avais pas le palmarès. Et on a le palmarès au fur et à mesure de la cérémonie. Et à deux prix avant la Palme d'Or, je vois qu'il y a deux Palmes d'Or. Donc je suis parti en courant la chercher dans le car, c'est-à-dire la car régie, etc.
Donc vous avez remis votre Palme d'Or.
Ah oui, c'est ça. Ça n'a pas pris trop de temps pour faire effacer à Michel Denisot.
un jour, Simone Veil, la grande Simone Veil, lui a dédicacé l'un de ses livres. Mais quel est la particularité de la dédicace faite par Simone Veil à Michel Denisot.
Elle s'est trompée de prénom.
Exactement.
Ouais.
Elle a signé pour.
Ouais. En fait, c'était au moment des élections européennes. Je ne sais plus à quelle époque c'était. Et Jean Veil, son fils, qui est avocat bien connu, travaillait avec moi à l'émission avec Canal, il y a une trentaine d'années. Et Jean me dit, pour les élections, ma mère a des difficultés. Tout le monde la lâche. Je ne citerai pas les noms de tous ceux qui en disent bien aujourd'hui.
Et pourtant, ça serait bien. Ouais.
Non. Enfin bref. Et il me dit, même pour les interviews à la campagne officielle, elle ne sait pas avec qui faire. Et moi, je ne me suis jamais engagé. Je suis très indépendant. Je dis, si tu veux, je le fais. Donc, je fais les interviews de Simone Veil dans la campagne officielle. Et puis, pour me remercier, elle m'invite chez elle, j'y vais, elle me remet un livre, et je l'ai vraiment beaucoup marqué, parce qu'elle me met un Robert Denisot.
Mais il y a un mélange de Robert De Niro et Robert De Niso, ça va faire. C'est classe. Non, d'un coup.
Et Michel De Niro, c'est...
ça marche moins bien.
Robert De Niso, talking to me. Ah, t'as le truc, quoi.
Cinéphile, Nagui.
Un jour...
Cinéphile, les gars.
T'as vu les références, bam.
Oh là.
Un jour... Il croise le couple Giscard à Avoriaz. Et pourquoi Michel Denisot reste cloué, interloqué sur place en voyant le couple Giscard au ski?
Ils étaient en maillot de bain.
Non.
C'était pas sa femme?
Si.
Il était à trois.
C'est bien. L'idée tout de suite qui te vient, c'est bien, c'est classe. Non, c'était sa femme, c'était au ski, ils étaient avec l'équipement.
Ah, mais il n'y avait pas de garde du corps.
C'est pas ça qui compte, il y avait l'équipement, il y avait sa femme.
Elle avait pas de ski.
Exactement, Tom.
Ah ouais.
Tom dit. Ouais, effectivement, et on s'est retrouvés par hasard, donc pour prendre des œufs pour remonter, et je vois Giscard qui marche
il
devant
beau,
et
sa femme. Il aime beaucoup les œufs, Giscard,
qui portait deux paires de skis. Et après, on se retrouve dans les œufs à quatre, et donc j'étais avec ma femme aussi, et c'était la période où les guignols tapaient assez fort sur le monsieur te demande. On a cinq minutes, je sais pas ce qui va. Même si j'ai rien à voir avec les guignols, on m'assimule, etc. On m'assimule. Et comme il est très intelligent, à un moment donné, il me dit « Ça vous pose pas trop de problèmes, les guignols ?» C'est-à-dire qu'il avait inversé,
c'est malin,
là.
C'est malin, très malin. Pourquoi Michel Denisot était-il surnommé Banga quand il travaillait à l'ORTF ?
Banga Banga, parce que c'est un lien avec l'Italie.
Les soirées où tu es allé, tu veux dire ?
Oui,
non, 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 pas du tout.
Et ça, c'est la boisson, les fruits.
Oui, mais pourquoi on l'appelait Banga ?
C'était un truc effervescent, Banga.
C'est un jus de fruits.
Mais c'était pas une poudre, le Banga ? Non, c'est pas ça.
Non, ça, c'est aussi ton week-end, là.
Ouais, c'est
ça. Bah écoute, c'est toi qui commence.
En fait, avec ces questionnaires, on apprend beaucoup sur Leïla.
Non, mais c'est pas vrai.
Non, Michel Denisot surnommé Banga Banga. Pas Banga Banga.
Ils passent leur week-end ensemble, maintenant, ça y est.
Ça, c'est vrai. Mais si, surnommé Banga. Non, pas d'idée.
Et bronzé tout le temps.
Non, jus d'orange, quel rapport ?
Donc, il était rouge. Il a toujours la pêche.
Ouais, il avait la forme. Banga.
Non. C'était même un peu humiliant comme surnom.
C'était limite, ouais.
Ouais.
Parce que c'est quoi ? C'était une boisson de prolo ou je
sais
pas quoi ?
Non, c'est parce que j'ai débuté comme assistant et j'ai cherché les jus de fruits pour le présentateur du journal télévisé.
Qui était ?
Et je l'ai remplacé beaucoup plus tard.
C'était qui ?
Philippe Gildas ?
C'était El Kabash. Non, c'était El Kabash, ouais.
El Kabash.
Il faisait du Banga.
Ouais.
Et ouais.
D'accord.
Quel gros cadeau, quel beau cadeau Michel Denisot s'est-il offert dès qu'il en a eu les moyens ?
S'est acheté une panne d'or.
Non.
Des vignes.
Exactement. Ah ouais. C'était un rêve d'enfant vraiment.
Oh,
vous disiez que vous étiez gamin.
C'est bizarre quand même le pinard, rêve d'enfant.
À 3 ans,
on en apprend sur Nagui aussi.
En l'occurrence, les vignes, vous les avez prises et achetées dans votre région.
Oui, dans l'Indre, près de chez moi, à Valençay, effectivement. Ouais, non, mais en fait, je ne cherchais pas à avoir des vignes. J'avais envie d'avoir des vignes, un rang de vignes dans la maison que j'ai dans la campagne. Et puis, il y a un vignoble à 20 ou 30 km qui est là-haussé, qui est un vrai vignoble. Quoi. Et donc, j'ai rencontré un vigneron qui m'a dit vaut mieux que tu achètes là que de planter là-bas chez toi où il n'y aura rien. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai pas un grand vignoble, mais j'ai organisé des vendanges tous les ans pendant des années.
Avec l'équipe du Grand Journal que vous emmenez là-bas ?
Avec les gens qui travaillent avec moi, il y a eu le PSG, il y a eu le Grand Journal, tous les gens. J'ai invité 150 personnes qui partaient en bus de Paris pour pouvoir avoir pas de problème au retour.
Mais pour aller récolter ou pour goûter ?
Pour faire les vendanges, oui.
Ouais.
Pour couper et goûter.
Rail dans les vignes, c'est extraordinaire. Ouais.
C'est cette année qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe ou pas ?
Oui.
Comme quoi, le pinard, tu vois, ça marche.
Peut-être un conseil à donner à Thomas Tuchel, finalement, pour le manger. Non, il faut qu'ils aillent.
Vendanger.
Couper. Je pensais qu'ils allaient déguster, mais non, ils récoltaient.
On vendangeait pendant 3 heures et on était à table pendant 5 heures. Quoi.
Ouais.
D'accord. Mais pardon, d'emmener vos équipes dont vous étiez le patron pour récolter les vignes, il n'y a pas un abus de position dominante et une autorité ?
Personne n'a porté plainte. Et...
Personne n'a osé.
Et tout le monde demandait s'il pouvait revenir l'année suivante.
Bon, Nagui, tu nous emmènes bien cueillir la coca, donc tu vois, ça dépend.
Ça, c'est pour l'usage personnel de
Nagui. Ah oui, merci.
Et vous leur avez tous rendu leur passeport ?
Parlons. Ouais. Parlons de cette émission Profession. D'abord, comment est née cette idée de réunir par genre, par métier des professionnels ?
Ouais.
Bah, c'est une idée très basique. J'ai dit au début de l'émission, donc c'était un concept qui existait déjà et qui a été adapté.
Oui, qui était plus un acteur, un truc de masterclass de cinéma.
Oui. Et après, donc, on s'est dit avec Xavier Mingon qu'on pouvait développer ça sur d'autres professions et que toutes les professions avaient de l'intérêt. Je pense que au fur et à mesure que l'émission s'installe, une émission mensuelle, c'est toujours un peu maintenant l'émission est repérée, mais
C'est délicat. Faut être honnête. C'est délicat à repérer un rendez-vous dans une grille de programme, surtout avec le mode de consommation maintenant. Ouais. sur un mois, sur l'autre mois. Ouais. L'autre avantage avec ce mode de consommation, c'est qu'il y a le replay, voilà. C'est qu'on peut...
Et donc en replay, il y a ce qu'on appelle voilà. pompeusement une collection maintenant. Donc il y a la collection de professions qui est sur MyCanal, je crois. Et donc on peut les voir à tout moment, comme c'est une émission qui est à la fois dans l'air du temps, mais intemporelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas 8 jours après, elle est toujours... L'intérêt reste le même sur la profession des gens. Mmh. Et donc moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, ce qui est un luxe en télé, on est hors promo. Les gens viennent rien vendre, ils viennent parler de leur passion. Les questions sont assez basiques, c'est pourquoi et comment. Et après, donc évidemment, c'est la base.
Michel Denisot, il tient une carrière sur 2 questions, c'est quand même formidable. C'est honnête de votre part. Il y a du travail. Arrêtez de dire, il y a que 2 questions. On sent qu'il y a du boulot derrière tout ça.
Ouais, mais il y a du boulot. Mais bah oui. Plus on fait court, plus c'est du boulot. Hein, donc,
il y a par ça aussi quelque chose.
C'est pour ça que je travaille pas. Et le plaisir de la télévision, on a pensé après le Grand Journal que vous preniez de la distance par rapport à ce média, qu'il y avait des entretiens.
Ouais, j'ai fait des émissions qui s'appelaient Conversations secrètes aussi.
Dans la rue avec des espèces de caméras cachées. Enfin, c'était fort concept là aussi. Vous êtes toujours, en tout cas, dans l'entretien et dans l'écoute. C'est ce que vous aimez.
Oui, j'aime bien ça. Oui, c'est ce que je fais. Je suis curieux, donc c'est mon métier, c'est curieux, donc je suis curieux de tout, spécialiste de rien, et je travaille pour devenir le temps où je travaille sur un sujet, avoir une certaine compétence et un peu de légitimité pour m'entretenir avec des gens sur tous les sujets. C'est vrai qu'on a fait Grand Flic, on a fait Les Chefs, on a fait Les Navigateurs Solitaires. J'ai fait Ministre aussi, qui passera dans 2 mois.
D'accord.
J'ai tourné, et donc c'est intéressant.
Anciens ministres.
Il y avait trois anciens et un actuel.
D'accord. Et ils ont accepté facilement.
Ben oui.
Il sera toujours ministre quand ça va être diffusé.
C'est ministre, c'est pas une profession, c'est une fonction qui est éphémère.
Non, mais vous pouvez dire qui sera.
Ah oui. Il y a Jean-Pierre Raffarin, François Baroin, Najat Vallaud-Belkacem. Et le secrétaire d'État actuel à...
dont il a oublié le nom, comme tout le monde.
On va vous aider dès qu'on saura lequel secrétaire d'État.
Quel est son poste
au numérique.
Ah, c'est Majoubi.
Mounir Majoubi, voilà. Ouais.
Qui postule un peu à la mairie de Paris ou pas, d'ailleurs. Il fait partie des prétendants.
Il se manifeste pas mal, ouais.
Donc c'est pas... Il est sur les boîtes
de bus. De toute façon, vous changez l'intitulé, vous mettez maire de Paris, si jamais ça bouge.
Le pire, c'est qu'un synthé à faire en post-prod, ça peut passer. Vous avez retrouvé le plaisir, il vous a jamais quitté ce plaisir de faire de la télé?
Ben maintenant c'est un luxe pour moi parce que je suis à un âge où je suis pas obligé de travailler et donc mais j'aime ça, donc j'aime ça de façon peut-être un peu déraisonnable. D'ailleurs, je continue d'en faire parce que j'aime ça et aujourd'hui que des choses qui me plaisent. Dans ma vie, j'ai pas toujours fait ce qui me plaisait. J'ai pas toujours fait des choses pour lesquelles j'étais fait non plus d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi je suis fait, mais en tout cas, je me promène et là aujourd'hui, donc je fais que des choses qui peuvent me plaire et pour lesquelles je prends du plaisir.
Non, à défaut de fausse modestie, Michel, c'est de la modestie de dire je ne sais pas ce dont je suis capable, je ne sais pas pourquoi je fais ce métier. Il est évident que quand vous étiez taulier de Mon Zénith à moi, du Grand Journal ou même de Télé, enfin, TV+, enfin, il y a eu plusieurs noms.
Télé Dimanche,
pardon. Il était évident que vous étiez dans votre élément, cet élément d'être curieux, de poser des questions, même de creuser ou de pas lâcher le morceau de gras ou le bout d'os que vous étiez en train de ronger. Il est clair que vous êtes fait pour ça et que vous aimez ça. Pourquoi vous dites, je sais pas
non,
pourquoi,
mais non, mais
ça sert à rien, vous savez très bien, vous savez que vous êtes fait pour
non,
ça.
Mais tout, on est plein de gens à pouvoir faire ça. Quoi,
non,
donc,
non.
Mais vous
non,
êtes,
non,
vous non, êtes non, peu nombreux à laisser les invités répondre. Anagui.
Quelle était la question?
Vous avez vu, j'ai pas répondu.
Non, vous êtes fait pour
vous
ça.
Vous avez compris qui vous aviez à faire.
Et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Ouais. Ça ne vous manque pas. Si Canal vous proposait de reprendre une
non,
quotidienne.
Non, je pense que j'ai à un moment donné, j'étais sur un rythme de quotidien que vous connaissez bien. Et le dernier gros truc, c'était le Grand Journal, effectivement, pendant 9 ans. Et on y consacre sa vie. Hein, pendant 9 ans, on fait vraiment rien d'autre. Il n'y a pas beaucoup de place pour la vie personnelle, la vie sociale, etc. Donc quand ça s'est arrêté, j'étais content de l'avoir fait et content que ça s'arrête. Et donc de retrouver un rythme. Bon, maintenant j'ai d'autres activités. Je travaille, dirige Vanity Fair, qui est un mensuel. Donc, je suis plutôt dans le rythme mensuel que dans le quotidien.
C'est clair, c'est clair. Alors, parlons donc de ce nouveau rendez-vous que vous donnez, profession agent artistique. Vous avez réuni la crème, carrément. Là, c'est le casting. Et d'autant plus dingue. D'ailleurs, vous ouvrez là-dessus en disant que c'est même l'un des plus beaux castings que l'on puisse réunir, parce que par leur entremise,
ouais, y a tout le monde.
Voilà, sont représentés d'énormes stars du cinéma. Elisabeth Tanner, Dominique Besnéard, Cécile Felsenberg, Jean-François Gabart, Fanny Mainviel, François Samuelson, Alexandra Chamis, tout ce beau monde réuni autour de vous. Ils sont à la fois, et c'est l'une des prouesses, moi, quand j'ai vu le casting, je me suis dit, waouh, oui, ils se connaissent les uns les autres, mais ça reste des concurrents aussi les uns vis-à-vis des autres. Et c'était dur de les convaincre.
Non,
ils
je crois pas.
Ils sont en compète quand même.
Ouais, ils sont en compète, mais je pense que à partir du moment où on traitait le sujet et que c'est un sujet qui est devenu qui n'est plus un métier, c'est pas un métier confidentiel, ça l'a longtemps été, un métier dont on parlait pas, c'est pas des professions qui sont faites pour être dans la lumière a priori, mais pour mettre les artistes dans la lumière.
Et avec à partir du moment où il y a la série 10%, s'il n'y avait pas eu la série, vous auriez fait cette profession?
Je sais pas. Ouais. Je sais pas, je me pose pas les questions qui se posent pas. Donc
mais est-ce qu'il y a des castings qui sont plus compliqués à monter que d'autres? Par exemple, seul en scène humoriste, ils étaient 4. Là, ils sont 6-7, je crois.
Ouais. Ouais, c'est variable, ouais, c'est variable. Oui. Non, il y a pas de règle, c'est entre 4 et 7, voilà.
D'accord. Oui, il faut quand même qu'il y ait une petite opposition, ou en tout cas différents points de vue, différents parcours. Ils sont clairement pas tous du sérail, ils sont clairement pas tous de la même génération, ils ont clairement pas tous la même manière de travailler. Et c'est ça qui est passionnant dans l'émission, c'est que l'on voit, on comprend finalement de quoi ce métier est fait et la manière dont chacun s'emploie à le faire. Est-ce que il y avait des agents qui auraient aimé être autour de cette table et que vous n'avez pas invité?
Non, bah écoutez, à partir du moment où on fait une liste de programmation comme vous faites, comme on fait tous dans les émissions, hein, et après on l'équipe commence à prendre des contacts, on voit si les gens ont envie de le faire, s'ils sont libres. Après, le problème c'est pas tellement l'envie, je crois que tout le monde a à peu près envie de venir à cette émission pour parler de sa passion. Ce qui est, les gens n'ont pas souvent l'occasion de faire ça à la télévision, ouais. ils viennent souvent pour promouvoir quelque chose ou dans des débats, etc. Et là, non, c'est en fonction de la disponibilité. Le problème, c'est de réunir tout le monde le même jour à la même heure, plutôt parce que ce sont des gens qui ont des emplois du temps à charger. Et c'était ça la difficulté la plupart du temps.
Est-ce que c'est fait aussi pour donner envie à une nouvelle génération ou donner un éclairage à ceux qui veulent faire ce métier?
Oui, Dominique Besnéard disait qu'il avait rencontré des gens dans la rue qui lui demandaient comment on faisait pour devenir agent. Je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas forcément avant. Et voilà, c'est un métier qui est maintenant... peut intéresser peut-être plus de gens par le fait qu'on sait ce que ça veut dire. Est-ce que ça... Alors, 10%, ça montre bien ce qu'est le métier, mais c'est de la fiction, même si c'est inspiré de la réalité.
Dans la profession, on
est à 100% dans l'authenticité et la réalité.
Il y a des écoles d'agents maintenant?
Je crois pas, non.
Parce qu'ils évoquaient dans le documentaire que tous avaient été formés peu sur le tard, ouais, en étant stagiaires, assistants.
Enfin, il y a une université qui s'appelle Armédia, quoi. Ouais. Donc tout le monde, la plupart.
qui est donc une agence
Armédia, c'est
d'acteurs et de chanteurs.
Il y avait deux grosses agences.
Et de réalisateurs aussi.
Au départ, des artistes, dont Armédia. Et les agents qui sont dans cette émission, sauf une, sont passés par Armédia. Ouais.
Qu'avez-vous appris?
Avant de monter leur propre affaire.
Ouais. Vous avez appris quelque chose ou vous saviez déjà tout de ce métier? Parce que vous êtes quand même dans ce métier depuis tellement longtemps que vous savez tout.
Non, je sais pas tout, et sinon je ferais pas, ça m'intéresserait pas. Mais non, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, j'ai appris, je pense tout à l'heure, il y a deux invités de l'émission qui seront là aussi. Donc,
Elisabeth Tanner et François Samuelson.
Donc, chacun le fait de la même, c'est le même métier, mais aucun ne le fait de la même façon. Mmh. Et c'est un métier de passion, il y a
de prise de risque aussi, très humain.
Voilà, c'est ce que je dis à la fin de l'émission, c'est qu'en fait ils sont les scénaristes de la vie des artistes dont ils s'occupent.
Donc ce sont une formule qui a fait mouche d'ailleurs auprès des agences.
Ouais, elle arrivait comme ça. Ouais. Parfois, ça s'est illuminé une fois par an. C'était ce jour-là.
C'est bien qu'il y ait une caméra et un micro à ce moment-là. Ouais,
bien. C'est bien fait quand même.
C'est quoi l'expression? Ça tombe bien. J'ai ma chute.
Ils sont les scénaristes de la vie
des artistes.
Des artistes. Ouais. T'as compris, Guillaume?
Ouais,
tu veux qu'on te le mette
sur... Non, mais j'ai entendu.
Tu
veux qu'on te traduise en belge?
En fait, tu fais une micro-sieste juste au moment où...
Pas du tout, mais j'écoute, c'est intéressant.
On va faire une copie, on va faire un enregistrement, une émission, si tu veux.
Profession agent artistique, et tout à l'heure en effet nous recevrons deux de ces brillantissimes agents. J'ai presque envie de dire, ils sont tous agents, sauf Dominique Besnier, qui lui est un ex-agent.
Oui, qui est un ex-agent, ouais.
Qui a quand même...
Qui a vulgarisé la profession.
Exactement, et qui a été l'un des partenaires, ou de j'allais dire des trois quarts de ceux que vous avez invités. Ils ont tous des rapports les uns avec les autres. Tom Villa, ça va être un succès, c'est évident cette émission.
C'est pas Michel Denisot qui va avoir du succès, c'est le succès qui rêve d'avoir Michel Denisot. Même Chuck Norris, je jure, il est jaloux. Alors encore une fois, donc, cette émission Profession revient. Je rappelle le pitch pour les gens qui arrivent en retard. Choisissez une profession et vous interrogez les meilleurs dans leur domaine. Donc vous avez fait humoriste, acteur, actrice, chanteur, chanteuse, créateur, créatrice. Et cette fois-ci, ce sont les agents qui sont à l'honneur. Donc agent artistique, voilà, agent d'acteur, parce que agent, c'est pas un métier. C'est comme ingénieur, ça fait intelligent, mais si t'es ingénieur au traitement des eaux usées, tu passes la journée à vérifier des pH de l'eau, donc a priori, c'est pas toi qui vas envoyer une Tesla sur Mars. Parce que agent, ça peut être aussi bien agent d'acteur qu'agent d'entretien, donc c'est pas le même travail. Et puis, c'est bien parce que agent, c'est une profession trop méconnue. Alors, c'est vrai qu'il y a 10% qui a permis de le mettre un petit peu en lumière. C'est vrai qu'autant boucher charcutier, on voit assez bien en quoi consiste le boulot que agent d'acteur. Mais c'est, voilà, je rappelle, moi, par exemple, dans 10%, c'est un petit peu romancé, c'est quand même le haut du panier. Moi, si j'appelle mon agent à 3h du matin parce que j'ai crevé une roue sur l'autoroute, il va me raccrocher à la gueule, tu vois. Non, je déconne en plus, parce que si je l'appelle à 3h du matin en panne sur l'autoroute, il me dira, mais qui êtes-vous? Donc, ouais, c'est... En fait, non, l'agent, c'est un petit peu le conseiller.
C'est,
pour
qui,
le...
Ton, c'est qui ton agent, toi?
Bertrand Delabé. Et en fait, le...
De quoi? C'est une vanne?
Non?
Ah, si c'est une vanne, c'est pas drôle.
Hein. Oui. Pourquoi?
Non, non, parce que c'était l'un des patrons d'Armédia,
oui,
qui n'y est plus.
Il a revendu Armédia et maintenant il a VMA. Voilà.
Non, non, il n'a plus rien. Il t'arnaque.
C'est vrai?
Renseigne-toi, nous.
Donc voilà, non, en fait, l'agent, c'est un peu le conseiller Pôle emploi de l'acteur. La différence, c'est que ton conseiller Pôle emploi, il te prend rarement 10% sur tes allocations chômage. Et puis à Pôle emploi, t'arrives avec un master en chimie, il te propose un poste de caissier chez Franprix. Alors que l'agent, c'est plus rare qu'il a un comédien premier prix de conservatoire à qui il propose un rôle dans Plus belle la vie, tu vois, c'est quand même... Mais grâce aux agents, on va au casting, on rencontre des réalisateurs, et puis c'est normal que ça se passe comme ça. Je vois mal François Ozon poster une annonce sur le site de Pôle emploi. Recherche homme, 40-45 ans, pour jouer une personne ayant été abusée sexuellement par un prêtre. Tournage sur la région Lyon, un film qui obtiendra un ours d'argent à Berlin, qui aura des ennuis avec la justice, mais qui sort malgré tout le mercredi 20 février en partenariat avec France Inter. Envoyez-nous vos candidatures. C'est vrai, c'est un peu le cercle vicieux, parce que c'est vrai que si tu démarres, tu te dis, il me faut un agent. Et tu vas voir des agents qui disent, est-ce que vous avez des choses à montrer?
T'es obligé d'avoir un agent.
Non, mais tu te dis ça. Ouais. Et tu vas voir des agents qui disent, est-ce que vous avez des choses à montrer pour que j'ai envie de vous représenter? Mais si j'avais du boulot, je ne viendrais pas en demander. Alors, il y a le Graal, t'es dans la rue, t'as rien demandé à personne, t'es au McDo de Châtelet, et t'as un agent qui vient de voir qui dit, j'ai envie de travailler avec vous. J'ai adoré votre façon de manger des nuggets. Votre regard dans le vide, votre sens du réalisme. Il y a un film avec Vincent Lindon qui se prépare. Il va jouer un gilet jaune qui travaille dans un abattoir. Il va filmer pour l'association L214 avec son portable. Il y a une scène de nuit où il va libérer des poules. Et justement, on cherche un petit jeune pour jouer son assistant. Est-ce que ça vous dit? Le mec, il a rien demandé. Il est même pas comédien. Limite, il s'en fout. Et il va être dans le prochain film Césarisé.
Il y a deux agents
c'est
qui prennent
dégueulasse. Non, mais c'est vrai. Et puis, agent, c'est un vrai métier parce que, voilà, dans le cinéma, on les connaît, les mecs qui disent, je vais être ton agent. J'ai le beau-frère du voisin de ma sœur qui connaît Laurent Boyer. T'inquiète, ça va le faire. Non! L'autre, il a une carte UGC. Il pense qu'il va te faire faire prochain Xavier Dolan. Donc, choisissez bien votre agent et je sais de quoi je parle. Un agent, c'est avant tout quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un en qui on a confiance. Et je rigolais tout à l'heure parce que quand j'ai crevé à 3h du matin, j'ai aussi appelé Nagui et il m'a même pas répondu.
Bravo.
Salaud. Merci, Tamila.
Bon original. Nagui. Sur France Inter.
Ouais, c'est vrai que c'est une question de confiance et presque de confiance financière aussi, Michel Denisot, parce que c'est des histoires d'argent, c'est des histoires de commission.
Il y a des avocats quand même. Hein, et...
qui viennent en plus de l'agent.
Non, mais c'est une structure. Non, c'est pas quelqu'un qui vient, qui a une licence. C'est pas comme dans le football, je pense pas.
Si, je pense qu'il faut une licence pour être agent.
Il fallait une licence et il faut plus de licence depuis que l'Europe...
Ah d'accord, ok. Bon,
avant,
ce qui est pas très rassurant. Non, mais dans l'idée, on en parlera tout à l'heure avec Elisabeth et François, mais c'est vrai que dans l'idée,
ce qui est rassurant, c'est que un agent qui la licence, ce sont les acteurs qui vous la donnent en fait. Mm-hmm. C'est parce que vous avez des acteurs qui vous font confiance que vous avez une licence fictive.
Mais pour démarrer, quand on a zéro acteur justement, en expliquant à un acteur, je vais te représenter et je vais prendre X% de ce que tu vas gagner.
Faut pas commencer par X%, je crois.
Il faut
c'est un peu ouais. C'est un peu dire 10, 15, 20, mais pas X. X est trop flou.
C'est quoi, c'est 10, non?
De quoi? Non, c'est 10 en plus.
Ouais, d'où ouais,
d'où le titre série. De la série.
Ah, c'est bien trouvé.
Non, mais c'est vrai qu'il faut établir un véritable lien de confiance au-delà de l'argent. C'est aussi, on le découvre dans votre documentaire, Michel Denisot, les agents sont des gens qui sont sincèrement émus par la culture, qui lisent, qui ont aussi une vision pour le chemin et la destinée c'est de leur ça. Acteur. Alors ils suivent, ouais. ils suivent pas, mais en tout cas, ils sont aussi ils ont, des conseillers.
Ils ont une intime conviction ouais. sur ce qui est qui bien est bon. Ou pas bien pour cet acteur ouais, ou pour cette actrice.
C'est un peu ouais. comme un copilote dans un rallye, quoi. Ouais. Il vous indique la route et c'est à vous de bien tenir la route indiquée.
Vous êtes fort vrai. En image.
Hein. Non, et puis l'agent, il est important.
Ils sentent l'époque, ils sentent aussi le.
Profession agent artistique, on n'arrête pas de dire. Que c'est un documentaire, ça vous
c'est comme
va
vous voulez,
ou pas
ouais. C'est comme vous voulez, ouais, ouais, ça peut être un documentaire. Ouais. C'est un documentaire.
C'est flatteur en tout cas. Ouais. Plutôt, il y a une émission, je trouve ça plus.
Ouais, documentaire, plus chic. Ouais, ouais. Documentaire.
Allez, on y va. Okay. Profession agent artistique, ce doc donc, autour d'une table, passe ce soir, et sans l'aide du CNC, passe ce soir sur Canal à 22h55.
Je sais pas.
Voici Guillaume Auguez.
Ça va les amigos
ouais.
Oui.
Je crois que vous connaissez la force de mon lien à l'alcool. Oui. Si l'alcool c'est Jacques, moi je suis Bernadette. Il y a des coups de canif dans le contrat, mais on finira ensemble. Et qu'on me comprenne bien,
ouais.
J'adore l'eau. Hein. L'eau c'est la vie, sans eau pas de vie, sans eau pas de piscine. Sans eau les canards ils seraient obligés de ramper sur le sol comme des paras. Mais n'empêche, c'est vrai, les canards ils boivent que de l'eau. Résultat, ça fait 30 millions d'années qu'ils font que des longueurs dans un étang. Super la vie des canards, génial, qu'on peut pas dire que ça dope leur créativité. Mais vous savez qu'il y a un canard d'Amérique latine, il a un tiche, il fait la moitié de sa taille. Et si vous comprenez pas ce que c'est un tiche, vous avez qu'à aller à Bruxelles plus souvent. C'est une très belle ville, c'est pas toujours à moi de m'adapter. Merde. Ce canard il a un tiche, c'est.
C'est quoi un tiche?
C'est un sgeg. C'est un miracle de la nature, vraiment. Eh bien, s'il picolait ce canard, au moins, il se ventrait un peu, quoi. Là, il en parle à personne, il reste humble et tout. Il nage, oui, salut, tu vas bien, oui, merci, à bientôt. Voilà, s'il picolait, il pourrait se vanter de ce tiche qui fait la moitié de sa taille. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que j'ai reçu un message Facebook d'un auditeur.
On sent que
qui me disait, ce que j'adore dans tes chroniques, c'est ton côté prosélyte pour l'alcool. Ça manque sur la radio publique. Super. Quand je quitterai Inter, c'est ça qui restera de moi. Tu te rappelles de ce chroniqueur belge avec son nom de pizzaiolo qui faisait l'apologie de l'alcool 3 billets sur 4? Ouais, celui. Bah maintenant, il vit dans un foyer. Avec Daniel Morin. Allez. Je fais pas l'apologie de l'alcool.
Lui, t'as l'EHPAD, c'est pas pareil.
Je fais pas l'apologie de l'alcool. Les chiffres, ils sont sortis hier. L'alcool, c'est 41 000 morts par an en France. Et je sais qu'un jour. Peut-être je serai dans cette statistique. Mais il faudrait que je me naturalise français, quoi, et que j'accepte qu'on équipe nationale bétonne derrière pour un oui, pour un non. Jamais, jamais, vous entendez? Jamais. Ceci dit, c'est en baisse, hein. On était à 49 000 en 2009, on a 41 000 maintenant, on est passé du Parc des Princes à Geoffroy Guichard, tu vois, comme Francis Yasser. Blague de niche, mais il y a Michel Denisot. Mais ça se tente,
il a compris.
Ça se tente, ouais, j'ai mis ça se tente.
Francis Yasser, il connaît.
Il est interpellant, hein, ce rapport n'empêche sur la consommation d'alcool en français, qu'une une vieille personne sur quatre. Picole tous les jours.
Ouais.
Ils sont là.
Ce qui explique nos bonnes audiences, je pense d'ailleurs. À cette heure-ci, il y a déjà des auditeurs d'Inter qui sont plus capables, je pense, de changer la station. C'est pour ça que. La bonne nouvelle pour le troisième âge, c'est qu'avec ou sans alcool, finalement, regardez Karl Lagerfeld, pas une goutte, on peut pas dire que ça fait la diff, hein, au final. Non, c'est vrai. Autre chiffre, parmi les consommateurs quotidiens, c'est vrai, ça fait pas la différence. Autre chiffre, parmi les consommateurs quotidiens, il y a trois fois plus d'hommes que de femmes. Trois fois plus d'hommes que de femmes. Ce que je veux dire par là, Léla, c'est que, voilà, oui, vous êtes différente. C'est vrai, mais c'est ne laissez vrai. Jamais personne vous dire que vous êtes un monstre. Vous n'êtes pas un monstre, Léla. Et Léla, qui a d'ailleurs assisté à ma dernière murge française ouais. en date, c'est vrai.
Je peux raconter.
Grosse soirée pour moi. Ceinture rouge de lamentable. Ah, vraiment, il ouais. y a eu vomi. Il y a eu chute.
C'était après ton spectacle. Ça va, t'as le droit.
Il y a eu vomi, il y a eu chute. Quand je pense à mon état, j'ai envie de crever dans un stérilet. Vraiment. Et c'est horrible. Parce que le lendemain, les gens, ils me racontent le lendemain et ils me parlent d'un mec que je connais pas, quoi. Vraiment. Allez, mon éducation, je me rappelle pas tout, mais il me reste des bribes, tu vois. Ouais. Et je dis, c'est pas possible, j'ai pas dit ça. De toute façon, c'est impossible
dit,
que vous ayez compris ce que j'ai dit. Déjà, quand je suis sort, on comprend pas ce que je raconte. Avec 7 grammes, c'est de l'indéchiffrable. Tu vois, j'ai jamais dit ça. Jamais j'ai dit Benabar président, tu vois. Et à chaque fois, jamais j'ai dit ça. Et à chaque fois que je me murge aussi fort, je me dis, j'arrête. C'est la dernière fois. Ouais. C'est la dernière fois. Je me dis, un jour, tu vas aller trop loin. On va te filmer en train d'uriner en public sur un ampli. Alors que sobre, tu trouves c'est une chouette émission, taratata. Sobre, c'est vrai, sobre, tu te dis, il fallait y penser à ce duo Catherine Ringer et Alain Soral pour chanter Mistral gagnant. Très bonne idée. Bien joué, Gérard Pulicino. Et pourtant, inlassablement, j'y retourne. Vous savez, 86% des Français ont bu de l'alcool au moins une fois dans les 86%.
Bah, c'est normal.
C'est beaucoup quand même, non? Ça veut dire que moi, j'ai regardé les chiffres de la consommation des choux de Bruxelles. Je peux dire, il y a pas le même amour du produit, hein. Vraiment, clairement. Et c'est normal que les gens, ils cherchent des exutoires. Parce que la vie en société, c'est dur. Et la vie seule, c'est encore plus dur. Et alors, cette chronique, elle s'adresse au CNRS. puisque tout le monde a l'air d'aimer tant l'alcool, bah, trouvez-nous un truc qui désinhibe un peu sans les effets dramatiques. Pour moi, ça devient vraiment urgent. Allez, bonne émission.
Merci Guillaume. La bande originale. Michel Denisot est notre invité. Nous parlons de profession agent artistique. Profession étant le titre générique de cette série de documentaires qui passe sur Canal. Et c'est ce soir à 22h55 pour la première diff. En tout cas, My Canal pour les rediffs et pour la collection. L'idée aussi, la belle idée, est d'installer ces personnes de même profession autour d'une table et de les laisser s'exprimer sans qu'ils voient la moindre caméra ou le moindre élément de télé. Il y a pas d'écran, il y a pas de caméra.
Ouais, ça crée un climat un peu différent parce qu'on est, c'est que la plupart des gens qui viennent dans cette émission sont aguerris à maîtriser leur image, donc souvent quand il y a des écrans de contrôle, mine de rien, tout le monde se regarde un peu. Et là, personne ne peut se voir puisqu'il n'y a pas d'écran et on ne voit pas les caméras non plus. Elles sont très loin, elles sont dans le noir. Enfin, donc,
j'imagine qu'il n'y a pas le rouge caméra, donc ils ne savent pas s'ils sont à l'antenne ou pas.
C'est une table ronde, une conversation, un bâton rompu.
La table ronde, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Ouais.
Le micro non plus. Ouais. Je crois c'est Ardisson.
Non, c'est Arthur.
La télé couleur, c'est Michel Drucker.
Et vous laissez vraiment une place très importante aux invités, c'est-à-dire que vous relancez, vous questionnez, mais finalement...
C'est-à-dire que je dois structurer cette conversation, cet échange, pour que il y ait un fil...
Vous êtes presque un observateur, quelque part.
Oui, c'est ça. Donc moi, j'interviens, mieux c'est, en fait. Ouais. Mais je dois intervenir au bon moment, si possible, et à bon escient, encore plus, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, pour que tout ça ne tourne pas en rond, que ça évolue, que ça rebondisse, etc. Et donc ça demande un travail en amont, évidemment, normal.
Mais vous saviez ce que vous vouliez obtenir ? Dans une confrontation entre deux styles.
Je veux qu'on apprenne des choses.
Non, mais vous êtes dit. Après Alexandre Chamis, qui ne fait pas partie.
Je travaille comme tout le monde, comme
vous les auditionnez avant.
Bon, quand on fait une émission longue comme ça, j'ai 25 pages par invité, que j'ai encore la mémoire qui marche bien, et donc que j'absorbe et que j'utilise, et après que je m'alaque, je réécris, je refais des fiches, je mémorise en écrivant, et à la fin, j'ai plus besoin beaucoup de mes fiches, mais je sais où je vais, quoi.
Honnêtement, avez-vous obtenu ce que vous vouliez? Ou il y a eu 2-3 invités qui étaient avec un frein à main et qui ne sont pas livrés comme vous le souhaitiez.
Dans cette émission-là, non. Je pense que c'était assez cash de la part de tout le monde. Enfin, tout le monde se fixe ses propres limites aussi. Mais je pense qu'on apprend beaucoup de choses sur cette profession et on voit les différences aussi de personnalités qui gèrent des carrières, pour ne pas dire des vies d'artistes, et avec beaucoup d'affect aussi, beaucoup d'affection, beaucoup de professionnalisme, d'exigence, d'attente. Donc ça a plutôt bien fonctionné.
Et agent, c'est un métier que vous connaissiez parce que vous traîniez à Canal et vous les avez croisés toute votre vie.
C'est une bonne façon de résumer la carrière de l'invité.
Et du coup, depuis un an et demi, vous avez réalisé votre premier film. Est-ce que vous avez été surpris de connaître l'envers du décor et de voir comment ça se passe?
J'ai eu des expériences dans ma vie. C'est président d'un club de foot et réalisateur de cinéma qui m'ont appris à chaque fois. Avant, j'étais journaliste sportif avant une époque, et je croyais, évidemment, comme tous les journalistes sportifs, à peu près tout savoir. Je me suis rendu compte, en étant président de club, que non. Et j'ai parlé de cinéma pendant 40 ans à la télé, à la radio aussi, ça m'est arrivé. Et je croyais savoir ce qu'était que le cinéma. Et en réalisant un film, je me suis rendu compte que non, quoi. Donc j'ai la chance de pouvoir avoir été des deux côtés. Et donc ça m'a appris beaucoup de choses.
Vous avez fait, c'est votre force d'ailleurs, en disant « je n'ai aucune spécialité », vous avez fait combien de métiers, en fait ? Président de club de foot, viticulteur, journaliste sportif, directeur des sports de la chaîne,
producteur
animateur, réalisateur.
Ouais. Non mais je suis exploitant forestier aussi aujourd'hui.
Il fait des champignons.
C'est ça. Non mais c'est dingue. Autrement dit, dès qu'un truc vous passionne, vous vous dites.
Ouais, c'est les rencontres avec des gens. Et ouais, ce que j'ai toujours coutume de dire, parce que j'ai aucun diplôme, c'est que ce que j'ai réussi, c'est les concours de circonstances, et que c'est les rencontres qui font que rien ne me prédisposait à avoir la vie que j'ai. Je pense qu'on m'a rien donné non plus, donc les choses sont arrivées comme ça, parce que j'étais là à un moment donné, puis j'ai pas toujours fait que des choses.
Et le travail.
Et le travail.
Et il y a du boulot.
Ah, oui, c'est le travail.
Ouais, ouais. Y a toujours du boulot.
J'ai une période de ma vie où j'ai rien fait, et c'était très préoccupant, mais c'était une période où on est d'insouciance que les gens de ma génération ont connue dans les années 60, et je faisais rien à l'école, mais vraiment rien, et alors que j'avais aucune sécurité personnel, ni
pas d'héritage de famille,
rien du tout. Ouais. Et après, je me suis mis à travailler.
Vous avez senti la différence.
Ouais.
Profession agent artistique, ça passe ce soir sur Canal à 22h55. Voici la bande originale de Michel Denisot. Quelle musique écoute Michel Denisot? On va commencer dans les années 60. Voilà.
J'ai l'impression que c'est Tutti Frutti.
De loin.
Ouais, de loin. Filmé à l'iPhone.
Depuis les toilettes.
Mais c'est une vanne.
C'est une vanne du bar à côté de la salle de concert.
C'est pour faire époque. C'est pour faire époque.
C'est une version.
Attends. On est sur France Inter. Le seul extrait de Gene Vincent Tutti Frutti, tu trouves, c'est quand il a un mouchoir dans la bouche et qu'il chante à 2 mètres du micro.
C'est bizarre.
Bon, allez, essaye de bouffer le micro.
Arrêtons le
donc cette année-là, on s'en fout. On passe à la suivante.
En tout cas, en 60.
Je ne connaissais pas cette version.
Michel Denisot.
Même Gene Vincent ne la connaît pas non plus.
Vous êtes tout jeune, vous avez 15 ans. Vous commencez votre carrière de journaliste. C'était à Centre Presse, je crois.
Oui,
à Châteauroux. Vous commencez à écrire des petits articles.
Oui, j'ai demandé à faire un stage pendant les vacances et je suis tout de suite. C'était un déclic, quoi. J'ai dit, c'est ça que je veux faire dans la vie.
Ouais.
Et j'ai commencé. Après, j'y suis resté. J'y allais dès que je pouvais. C'était un journal local. Hein. Et donc, je faisais les avis. Je faisais les tournées des avis d'obsèques, des commissariats, puis les comptes rendus. Je commençais à écrire des petits papiers.
Qu'est-ce qui vous plaisait? Raconter des histoires?
Oui, je pensais que pour moi, journaliste, c'est raconter les choses de façon extrêmement précise et non pas. Et les commenter, c'est autre chose. Et aujourd'hui, il y a un peu le mélange tout le temps.
Ouais.
Et donc, c'est un métier de rigueur et, je dirais, d'instituteur à la limite, quoi, de relater les choses. Il faut que chaque mot soit une information. C'est ce qu'on essaye de faire dans ce que je fais aujourd'hui à Vanity Fair avec l'équipe qui y travaille. C'est ça qui m'intéressait à l'époque et que j'avais envie de faire.
Mm-hmm.
Puis ensuite, donc, il y avait une base américaine à Châteauroux. Il y avait 5000 Américains. Donc, vous imaginez, la vie était, on vivait dans un film. Et d'où le choix de Gene Vincent. Voilà.
Et ouais, et puis là.
Tutti Frutti qu'on chante en yaourt.
Tutti Frutti, c'est un yaourt aux fruits.
Et la presse quotidienne régionale, voilà, c'est vraiment une très bonne école de ce point de vue-là. Et vous rencontrez là-bas une sténo, Hélène.
Hélène Depardieu, qui est la sœur de Gérard, qui est, à l'époque, on écrivait les textes. Il y avait une sténo qui les tapait à la machine et ça partait à l'imprimerie qui était à Poitiers. Donc c'était Hélène Depardieu qui tapait les textes.
Et c'est comme ça que vous avez rencontré Gérard?
Oui, on pouvait pas l'éviter.
Ouais. Non, mais de là est née quand même une amitié qui dure encore.
Ouais, une relation, disons, une relation amicale. Ouais. Amitié, c'est un grand mot, mais une relation amicale, oui, qui a toujours perduré à travers les époques. On est arrivé à peu près à Paris en même temps, mais tout ça, c'était pareil, c'est des hasards, quoi, mais on a gardé, oui, une relation.
Justement, vous arrivez à Paris en 72.
On ira tous au paradis, ben moi. Soit béni ou qu'on soit maudit, on ira.
De réentendre Paul Naref, quelle que soit la chanson, d'ailleurs, ça vous replonge dans ces années.
Ouais, c'est la première fois que je suis allé à l'Olympia, c'était pour voir Paul Naref. Ouais, donc, voilà.
C'est votre premier concert à Paris.
Ouais.
Et pourquoi Paul Naref? Parce que vous étiez fan.
Parce que
j'aimais
Paul Naref, évidemment.
Non, mais déjà, à Châteauroux, vous l'écoutiez.
À Châteauroux, on avait la radio, oui.
Oui. Merci. Mais vous aviez la radio où vous pouviez entendre aussi
Johnny.
J'écoutais
beaucoup la radio. J'écoutais la radio pendant les cours, j'écoutais la radio, j'avais un petit transistor avec un fil.
Il y avait Johnny, il y avait Claude-François.
Oui, non, mais après, j'ai des goûts très éclectiques en musique, comme vous.
Et pourquoi lui?
Mais ouais, mais Paul Naref, oui, effectivement, c'était la première fois que j'allais à l'Olympia. Voilà.
Et vous l'avez retrouvé quelques années plus tard dans le désert.
Oui, je suis allé le voir alors qu'il était. On l'avait pas vu depuis des années. Ouais. Donc je suis allé faire une émission avec des gros moyens à l'époque, en hélicoptère. On avait deux hélicoptères dans le désert en Californie et il y avait un piano à queue qui descendait
Piano blanc.
Ouais, un piano blanc qui descendait là et il chantait dans le désert tout seul, enfin avec moi. Et ouais, c'était bien. Mais ce qui est drôle, c'est que
je raconte ça parce que entre le petit garçon qui écoutait la radio à Châteauroux en étant fan de Paul Naref et le producteur de Canal qui fait descendre un piano blanc d'un hélicoptère dans le désert.
C'est des années de réchauffement climatique. Et vous êtes responsable.
Pour avoir une espèce de concert privé, quel parcours, quoi.
C'est drôle. Et à l'époque, donc.
C'est à se demander d'ailleurs si votre vie n'est pas faite de rêves d'enfants qui se réalisent.
Oui, un peu, ouais, effectivement. Oui, c'est, quelquefois c'est le cas. Ouais. Même quand je suis devenu président du PSG, c'est arrivé par hasard aussi. Et, puisque Canal
ça
n'arrive racheté...
pas par hasard complètement.
Ben,
pardon,
si, mais... parce que c'est Canal, je suis à Canal+, qui rachète le PSG parce que le plus grand feuilleton de Canal, c'était le championnat de France. Mm-hmm. Un feuilleton, c'est avec des personnages. S'il n'y a plus Paris dans le feuilleton, avec les rivalités, etc., le feuilleton vaut moins cher. Le maire de Paris de l'époque en a marre de renflouer le club tous les ans, c'était Jacques Chirac. Et donc les dirigeants essayent de trouver un repreneur. Et Canal, André Rousselet, avec Pierre Lescure, décide de reprendre le PSG. Et on fait une réunion des fondateurs de Canal, et donc on était une dizaine autour de la table, et moi j'arrive là, et je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Et André Rousselet fait le tour, bon alors qui va présider ça bon, il y avait Charles Vitry qui dirigeait les sports, donc c'était, qui en avait envie, mais ce n'était pas compatible entre diriger le service et diriger un club. Et ça arrive à moi, et il me dit, moi je dirais, j'étais président de Châteauroux en deuxième division, donc ça n'a rien, c'est pas la même musique,
sacré mais monté,
bon,
hein.
c'est un modèle réduit, mais c'est un modèle quand même. Et il me dit, ça serait bien, c'était vous. Je dis, mais bon, je demande à réfléchir, et il me répond, à votre place, je dirais oui tout de suite. Et donc j'ai dit oui.
Voilà. Est-ce qu'il avait un couteau ou ça n'a rien à voir?
Et tout de suite, on va vous assigner Robert Denisot. Rien à foutre, j'y vais, j'ai peur de personne.
Et pour revenir à votre vie, en 72, Michel Denisot, après un passage à l'ORTF Limoges, vous arrivez à Paris, Cognac G, studio mythique. Et vous ne tardez pas à faire votre première bourde où vous craignez d'être licencié sur le champ.
Ouais.
Une affaire à base d'épouses de Georges Pompidou et de...
Ouais. En fait, je m'occupais des relations avec les stations régionales, donc j'avais un petit bureau, et tous les matins, les stations régionales proposaient des sujets pour le journal télévisé de 20h. C'était une période de transition où c'était Jacques Chaban-Delmas qui était Premier ministre, et c'était début de libéralisation de l'information de l'ORTF. Mais pas dans les stations régionales. À Paris, oui. Et donc avec Pierre Desgroupes qui dirigeait la chaîne, et donc moi j'assistais aux réunions, j'étais tout au bout là-bas, et je disais à la fin des conférences de rédaction, la station de propose ça, et ils me disaient ça nous intéresse pas. Et la station de Rennes propose, êtes-vous intéressé par l'inauguration de la fondation Claude Pompidou à Rennes, machin. Et donc moi je réponds spontanément, sans avoir consulté personne, première chaîne intéressée seulement en cas d'incident. Et amitié Michel Denisot. Bon, je pensais faire mon boulot normal.
Désolé.
Et ouais, que je dis jamais. Et donc ça. Et puis un mois après, il y a une conférence de presse de Pompidou qui n'appréciait pas cette libéralisation de l'information à l'époque. Et il y a un journaliste qui pose une question téléphonée et qui dit « Qu'est-ce que vous pensez de la formation télévisée telle qu'elle est donnée tous les soirs à 20h ?» Et là, Pompidou dit « Je suis catastrophé. Tous les soirs, quand j'allume la télévision, j'ai l'impression que le pays... » Je vais vous donner un exemple. Et là, moi, j'étais dans le bureau. J'étais avec le journaliste qui présentait le 13h, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Jean-Michel Desjeunes.
Et formidable journaliste, qui malheureusement a mis fin à ses jours.
Qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé à Paris. Et on buvait un whisky, puis on regardait. Et Pompidou dit, je vais vous donner un exemple. Ma femme, et là, je dis, c'est pas, attends. Ma femme va à Rennes et le directeur propose. Et il sort mon téléx. Et il dit, voilà la réponse. Et là, je me suis dit, je suis mort.
Ouch.
Je retourne à Châteauroux, garde Tserlitz et au revoir.
Convoqué dans le bureau
et
du patron.
Et finalement, j'ai été convoqué pour qu'on me demande pourquoi j'avais fait ça. Et François-Henri de Virieux, qui était rédacteur en chef, qui ne m'avait rien demandé dans cette affaire, m'a dit si tu vois qu'on veut te mettre dehors, tu dis que c'est moi qui te l'ai dicté. Voilà.
Oh. Classe.
Chouette.
Ouais. Classe.
J'ai pas eu à le faire, mais bon, ça s'est passé.
On reparle de profession agent artistique. Ouais. Cette émission, ce doc que vous présentez ce soir sur Canal à 22h55, avec donc parmi tous vos invités autour de la table, Dominique Besnéard, Cécile Felsenberg, Jean-François Gabart, Fanny Mainvielle, Alexandra Chamis, et puis deux invités que vous avez eu la gentillesse d'inviter ce matin pour... venir nous témoigner en tout cas de leur métier, de leur vécu de cette émission, Elisabeth Tanner et François Samuelson. Merci à tous les deux d'être présents.
Bonjour.
Oh, la voix, François.
Ouais.
Non, c'est Elisabeth.
Je peux recommencer. Bonjour.
Ah ouais,
non, vous avez tous les deux deux voix de façon très spécifique.
Charismatique. Vous devez faire de la radio. Vous devez penser à faire de la radio, en tout cas.
On va faire comme Michel, on va changer de carrière.
Comment vous est venue l'envie et l'idée...
L'envie, non, c'est pas l'envie, c'est pas ça.
L'envie et l'idée d'être agent, Elisabeth.
Ça a été un hasard au départ, en fait. Ça a été totalement hasard. Moi, je voulais être actrice. Et puis, à un moment donné, ben, voilà, ça ne marchait pas terrible, comme on dit. Et donc, j'ai rencontré un agent. Je lui ai dit, là, je suis vraiment, il faut vraiment que je gagne ma vie. Donc, je suis désolée. Je vais venir que dans 3 jours vous voir et pas tout de suite. Et la personne m'a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Oh, j'ai dit, là, franchement, même les ménages, là, j'ai besoin de payer le loyer. Elle m'a dit, écoutez, moi, je pars aux États-Unis. Venez pendant 15 jours. Vous avez un cursus, etc. Venez, ouais. On va arranger ça. Vous êtes capable de répondre au téléphone. J'ai dit, oui, ça, quand même. Vous connaissez un peu le métier. Oui, un poste très qualifié. Ouais. Et je me suis vraiment retrouvée 15 jours grouillot dans une agence où, en très peu de temps, j'ai pris très vite ma place. Au bout d'une semaine, j'étais très à l'aise et tout. J'ai commencé à comprendre que tout ce qui m'avait posé des problèmes, moi, en tant qu'actrice, arrivant on scratch, connaissant personne, je pouvais là compenser, protéger et permettre à des gens d'exprimer leur talent. Je ne sais pas si j'en avais moi, mais en tout cas, celui des autres, je le voyais.
Vous avez vu de l'intérieur comment ça se passait,
voilà,
en tout cas.
Et tout à coup, je me suis sentie à ma place. Voilà.
En démarrant vraiment par le premier échelon
Je suis arrivée avec Bac plus 5, le conservatoire, etc. Et, tout, et j'ai commencé au téléphone, dans une entrée sans lumière, sans rien, chez un très vieil agent qui s'appelait Olga Orsic-Primus, qui était un agent mythique agent, en plus, ouais. Très grand agent, qui a été l'agent de Bardot, de Bogart, etc. Donc moi, j'ai eu en plus la chance de rentrer dans une histoire qui me précédait, qui était l'histoire qui me fascinait évidemment, c'est-à-dire les stars, le cinéma des années 60, 70, etc. Et donc ça a été un enrichissement total et absolu. Et j'ai surtout trouvé ma place, c'est-à-dire que je pense que moi, je voulais être actrice parce que c'était une réponse à un malaise quand j'étais jeune. Je voulais aller vers ce métier, il me faisait rêver, il a conduit beaucoup de mes pas. On parlait des rêves qu'on arrive à
faire. Le malaise dont vous parlez, c'est de ne pas savoir qui vous êtes et de vouloir jouer
d'autres personnages.
Non, pas du
tout, c'était lié à une rupture. Alors. Oui, voilà, c'est ça.
Vous voulez en parler là,
mais lui, il pourra en parler aussi, parce que lui, il a commencé sur une rupture.
J'arrive, François.
Non, mais moi, c'était une rupture, bon, voilà, de vie, dans ma famille. J'étais en Algérie, je suis rentrée, etc. Et tout, et donc, je n'arrivais pas à trouver ma place en France.
D'accord.
Et donc, ça me faisait rêver, voilà.
Et aujourd'hui, vous êtes donc l'agent de Sophie Marceau, Charlotte Rampling, Nathalie Baye, Cécile de France, Lou Doyon, Béatrice Dalle, Richard Anconina, Nils Arestrup, Charles Berling, Patrick Bruel, Eric Cantona, Michel Denisot.
Oui.
Vous êtes l'agent de Michel Denisot.
Ah oui.
Elle est pistonnée.
Ouais. Depuis peu, parce qu'en fait, avant dans la télévision, j'ai jamais eu d'agent. Et comme j'ai écrit et réalisé un film, donc je suis, le plus vieux débutant du cinéma français. Mais donc là, il fallait un agent parce que c'est des contrats spécifiques. Et puis j'avais besoin d'un conseil. Voilà.
Très bien. Alors vous, même question, François. Comment êtes-vous?
Cette rupture.
Non. Est-ce que c'est une aventure personnelle et comment on se retrouve agent?
Je crois que on commence ce métier toujours par hasard. Vous voyez pas, tout à l'heure, vous parliez d'université ou d'école. C'est impossible. C'est un métier qu'il est très, très difficile d'expliquer puisque c'est un quotidien. Et généralement, on y arrive par accident. Moi, mon accident, c'est pas du tout le même parcours qu'Elisabeth. C'est par la littérature. Oui. C'est-à-dire que dans les années 80, les éditeurs disaient qu'il n'y avait plus de littérature française, c'est-à-dire à peu près comme si Michelin disait qu'il fabriquait des pneus pourris, quoi, vous voyez, et qu'on ne pouvait pas vendre ses livres
aux
États-Unis.
C'est ce que vous racontez dans les dernières professions.
Vous me demandez comment j'ai commencé.
Oui. Non, mais je
vous réponds.
Je dis simplement que la suite est dans l'émission.
Elle est dans l'émission de Michel.
On ne peut pas changer de version.
Non, c'est la vie. Mais il n'empêche, pardon, parce que ce que vous avez dit, Elisabeth, vous ne l'avez pas dit dans l'émission sur ce parcours-là.
Parce que je ne dis pas tout.
Ouais. Voilà, pas n'importe qui.
Vous,
quant à vous, François Samuelson, vous êtes donc l'agent de Juliette Binoche, de Sabine Azéma, d'Olivia Sayas, de Beck BD, de Polanski, et j'ai mis volontairement à part Welbeck, Gian, Despentes. C'est-à-dire que vous avez cette particularité d'avoir aussi bien, toujours en tout cas, des auteurs et des acteurs ou des réalisateurs.
C'est comme disait Michel, c'est-à-dire après être passé par l'université Art Média, je suis revenu à mes premiers amours et que j'ai, par les hasards de la vie, je fais un métier où on est peu. Des agents artistiques, il n'y en a pas beaucoup, mais alors des agents littéraires, il n'y en a vraiment pas beaucoup, beaucoup.
Est-ce que ce n'est pas une plus-value, justement, en ce moment, où on voit beaucoup d'adaptations de livres, de romans au cinéma? Est-ce que vous n'êtes pas
Elisabeth, du coup... Elisabeth Tanner dit oui.
Cette passerelle cette assez idéale,
oui,
finalement.
Bien sûr, mais c'est ça, je crois, l'intérêt de représenter des écrivains et des metteurs en scène, c'est-à-dire que vous pouvez créer la passerelle, c'est-à-dire vous remplissez la case du chaînon manquant. La particularité, c'est que lorsque je fais un accord avec un éditeur, je ne lui donne pas les droits cinématographiques pour une raison très simple, c'est que, un, je pense que je connais mieux le système que lui, deux, je prends 10%, lui 50, donc il n'y a pas besoin d'être Medaille-Field pour comprendre, mais trois, surtout, c'est que j'essaie de provoquer la rencontre qui va créer le film et pas seulement des achats d'options. Ouais. Là, on va devenir technique, mais c'est-à-dire des options, c'est un cimetière de projets non aboutis, alors que créer le film, c'est beaucoup plus complexe.
Et avoir à la fois être agent et du réalisateur et de l'auteur pour un même projet, c'est une situation confortable ou au contraire, défendre deux intérêts, deux points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes, qui ne vont pas forcément dans le même sens?
Non, c'est confortable, mais c'est confortable et inconfortable s'il y a un problème. Mais dans le cas, par exemple, d'après une histoire vraie d'Delphine de Vigan, la première rencontre, c'était entre Delphine de Vigan et Roman Polanski. Ensuite, la seconde, il cherchait un scénariste. Je lui ai proposé Olivia Sayas parce que je savais qu'à ce moment-là, Olivier était disponible entre deux films. Donc, c'est plutôt harmonieux que conflictuel. Mais c'est la même situation quand vous représentez des acteurs qui ne peuvent pas se blairer entre eux et qui sont sur le même film.
Ouais. Ce qui n'arrive jamais.
Jamais.
C'est une grande chose. Mais c'est surtout que on nous pose toujours la question du conflit d'intérêts quand on a deux personnes en même temps. Mais en fait, la gestion d'un intérêt, ce n'est pas demander tout et n'importe quoi pour une personne, puis après demander tout et n'importe quoi pour l'autre. L'idée pour nous, et je pense que c'est un peu parfois ce qui fait la différence avec les avocats, c'est que on a le film dans la tête, on a le film qui va se faire, le film potentiel, et autour de ça s'organisent des intérêts qu'on essaye le plus légitime et le plus équilibré qui soit. Donc on n'est pas dans un tout au max pour un et au max pour l'autre.
J'entends,
on n'est pas dans cette construction-là.
J'entends, il y a dû y avoir, même si c'est un détail, des égos à ménager sur la taille de la typo, tel nombre d'artistes, la photo...
Mais ce n'est pas forcément un problème d'égo, c'est problème de... Si vous voulez, c'est la logique commerciale, c'est-à-dire qu'on est en plus aujourd'hui dans une situation de financement extrêmement difficile, pour ne pas dire plus, et qu'on demande toujours les mêmes personnes, et si on les demande, c'est parce qu'elles ont une valeur réelle ou supposée. Donc, je veux dire, vous ne faites qu'appliquer ce que la personne en face de vous demande.
Il y a quelques jours, à ce micro, Olivier Gourmet nous disait qu'il avait été oublié de l'affiche de Jacques Coule-Croquant. Enfin, ce qui est quand même...
C'est de la faute de son agent.
Ah, voilà, c'est fort, quoi. Il est chez nous.
Écoutez, moi j'ai une anecdote, c'est qu'un jour, j'étais chez Armédia, à l'époque où j'étais avec Dominique Besnéard, on avait deux petits bureaux avec une vue plongeante sur les chiottes, et je me souviens, je reçois un coup de fil. Enfin non, il y avait une urgence, il fallait répondre pour la position de Gérard Depardieu, justement, sur l'affiche du film. Et Gérard appelle, il n'y avait plus personne, c'est moi qui décroche, et puis il me dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, tu devrais être au-dessus du titre, etc. Il dit, tu sais quoi, vu ce qu'ils m'ont payé, je m'en fous, ils me mettent où ils veulent. Voilà, c'est à peu près ça.
Il y a des gens plus simples que d'autres, quoi, sur ces questions-là, on va dire ça.
Vous avez vécu comment cette émission Profession Agent Artistique? Avez-vous eu le sentiment d'abord de bien expliquer, de pouvoir dire tout ce que vous aviez à dire? L'avez-vous vu? Y a-t-il un montage, alors? Y a-t-il des coupes faites ou est-ce que c'est tourné en continuité?
Il y a très peu de montage. L'émission fait une heure et on tourne une heure dix. Donc,
vous resserrez. C'est plus,
ouais,
c'est plus du nettoyage que du montage.
On a dû refaire des prises parce qu'il avait loupé son coup.
C'est quand je bégaye.
Il doit encore apprendre.
Et vous parliez
Elisabeth,
de...
Ouais. Comment vous l'avez vécu ce tournage?
Ah bah, je l'ai vécu de façon très détendue. Il y avait que nous, donc on se connaît tous quand même, parce que pour répondre à la question sur est-ce qu'on a une famille, c'est comme dans une famille. Il y a des jours on s'aime et des jours on se déteste. Donc ça dépend des petits épiphénomènes qui nous traversent. Mais là, en l'occurrence,
j'aime bien tout le monde tous les jours.
Ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans, je crois, que globalement, Jean-François Gabart, François, moi, enfin, on se croise depuis. Nous, on a travaillé ensemble.
On a commencé ensemble, chez Armédia, Elisabeth, un mois près.
Avec un bureau aussi très bien placé.
Et Dominique Besnéard faisait aussi partie de cette.
Intrus dans l'émission, il a rien à y faire. Je comprends même pas pourquoi Deniso l'a invité.
Et est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, Elisabeth Tanner, d'être la personne qui a inspiré le personnage d'Andrea Martel dans 10%, parce que
Camille
maintenant
Cotin.
C'est voilà.
Alors moi, ça n'a rien changé pour moi. Ça a changé des choses dans la relation que les gens peuvent avoir avec moi. Ouais. Mais ça m'a énormément servi parce que ça a été un énorme plan com pour moi. Quand j'ai monté ma société.
Bah oui.
Ça a été pratiquement en concomitance. On aurait voulu l'organiser, on n'y serait pas arrivé. Et j'ai pris ça pour un alignement de planète. Et ça a été évidemment tout à coup un taux de notoriété, comme on dit, qui est monté très vite. Ouais, parce que après, moi, j'ai beaucoup de distance par rapport à ce qui est raconté, parce qu'évidemment, il y a de la fiction.
Bien sûr.
Voilà.
Bah, ça fait du bien à Camille Cotin, surtout.
Oui, c'est vrai.
Elle l'a très bien interprété, Camille Cotin.
Elle a eu des prix.
J'adore Camille.
Elle a eu des prix pour ça.
C'est génial.
Il y a un moment dans l'émission qui est troublant. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme j'ai pu le ressentir en le voyant, c'est lorsqu'on sent l'émotion d'Alexandra Chamis qui dit ne pas avoir été enfant du Sérail et on sent en tout cas qu'elle n'a pas été bien accueillie, peu importe si ses ennemis entre guillemets sont autour de la table ou pas, mais on sent une fragilité à fleur de peau pour elle et une gêne peut-être autour de la table.
Je peux m'en expliquer, on peut s'en expliquer, je connais bien Alexandra et c'est quelqu'un que je respecte et je la connais depuis très longtemps. Ce n'est pas qu'elle n'est pas du Sérail, parce qu'aucun de nous n'est du Sérail quand même. Et moi je veux bien qu'on parle de Sérail.
Elle est arrivée par un autre chemin. Voilà, elle n'a pas fait l'université.
Elle est arrivée par un autre chemin et dans une proximité avec les talents qui, à un moment donné, étaient parfois très mal ressentis par les agents, puisqu'elle arrivait à un moment donné où les gens sont en promotion, où ça se passe plus ou moins bien, et son travail, c'est d'être présent. Donc ça a été mal ressenti.
Avez-vous ressenti, en tout cas, ce moment particulier?
Oui, on a senti qu'elle avait besoin de le dire. Je l'ai ressenti. Aujourd'hui, elle est très légitimée. Moi, je veux dire honnêtement.
C'est vrai qu'elle a eu du mal parce que justement elle n'a pas pris le chemin habituel et que c'est une tendance très française qu'on est toujours le compte quelqu'un en ce bas monde. Donc vous voyez, c'était mais elle a surmonté l'épreuve. Elle représente des gens qui ont un succès monstrueux et qu'elle a acquis ses lettres de noblesse. Et pour faire un parallèle tout mesuré, quand j'ai commencé à faire agent littéraire à mon retour de New York, tous les éditeurs et toute la place de Paris étaient contre. Je veux dire, donc il faut durer, c'est tout.
Puis elle a respecté les règles à un moment donné. C'est vrai qu'elle est arrivée un peu à la sauvage et puis elle a appliqué les règles et puis voilà, tout s'est bien passé.
C'est vrai que c'est un moment fort.
Exact. Et c'est ce soir sur Canal à 22h55. Merci Elisabeth Tanner, merci François Samuelsson d'être venu à ce micro. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour Nagui.
Vous allez nous parler de Choupette.
Oui, c'est la chatte de Karl Lagerfeld qu'il avait désignée comme l'héritière d'une partie de sa fortune. L'animal est donc riche de plusieurs millions. Depuis hier, toutes les banques l'appellent. Jérôme Cahuzac déguisé en Félix Le Chat l'a même approché pour tenter de se refaire. Elle sera à 13h15 sur BFM Business.
On en parle après les infos. Soyez bienvenus si vous nous rejoignez avec Elina Kadoumoudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Guillermo Duiz, Tanguy Passureau et notre invité Michel Denisot. Vous êtes toujours fan de football.
Comment ?
Vous êtes toujours fan de football.
Bien sûr, oui.
Inévitablement. Il y aura d'ailleurs des footballeurs qui viendront.
Oui, alors on doit faire profession footballeur dans un mois. On doit tourner ça.
Super. Et vous avez déjà
une... On est en train.
Une idée.
La liste, on est en train de...
Une envie.
Oui, on a commencé à faire une liste d'invités qu'on n'a pas encore contactés, mais donc tant qu'on les a pas, on va pas annoncer.
C'est très large, ça pourrait être sélectionneur de.
Non, mais c'est footballeur, c'est joueur de foot, donc mais les sélectionneurs ont été joueurs de foot. Ouais. Si on parle de Didier Deschamps, dont on parle souvent dans cette émission, j'entendais encore hier.
C'est le parrain de cette émission.
C'est le parrain tout court du football.
C'est le parrain. Il a accepté d'essuyer les plâtres de cette émission.
Pour une grosse enveloppe aussi.
Ce qui n'a pas été le cas de deux autres personnes qui ne mettront jamais les pieds dans ce studio.
Savoir qui, hein.
Qui avait refusé.
Je vous le dirai. Oui. Non, c'est sur une première avec appelons un chat le côté délit d'animateur de jeu en disant mais non, enfin émission inter avec lui, j'y vais pas. Bon bah tu demandes à deux invités, après en effet t'appelles un copain en disant écoute Didier Deschamps, personne ne veut venir, est-ce que tu acceptes de faire la première? Puis après ça s'est déclenché.
C'est vrai que t'es quand même animateur de karaoké. Mais c'est sur Inter, hein. C'est vrai, faut quand même resituer.
Et quand tu as ces personnes
qui veulent venir maintenant
extrêmement bankable qui te demandent tous les ans de revenir, tu dis bah non, écoutez, Soyez honnête et intègre avec vous-même.
Oh, c'est pas, c'est j'aurais de, bien vu Michel Drucker.
C'est de la, ouais, c'est de la mémoire. C'est pas, c'est pas d'un rancune, loin de là.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas moi. Non, cette idée. Mais c'est pas le genre de la maison.
Il est ténueux, il est ténueux.
Non, mais si, ça te
tente bien. Passion.
Arrêtons bien, Tanguy Passion.
Qui a poussé ton lire. Allez, Tanguy.
Tanguy, malheureusement, hier, Karl Lagerfeld nous a quittés.
Oui, et ça me sujuque toujours de voir des gens qui ont une vie aussi chargée, ont révolutionné leur secteur d'activité. Lagerfeld a même été le seul être au monde sur un total de deux en tout à porter le catogan avec élégance, puisque l'autre à avoir fait ça, c'est Francis Lalanne. Ça m'étonne de les voir mourir. Mourir me paraît tellement nul. C'est même pire que quand les piles de la Zapette lâchent alors qu'on est sur Énergie 12. Moi qui suis athée en plus, je peux pas me dire que des anges tout nus viendront me chercher pour m'emmener par-dessus les nuages. Pour les chrétiens, mourir, c'est ça. C'est avoir la vie de Thomas Pesquet s'il était tombé à l'époque des grandes soirées du Queen. C'est génial. Mais moi, j'ai rien à quoi me raccrocher. Pour moi, la mort, c'est un grand trou. C'est affreux, ça ressemble au déficit public de la France. Si ça se trouve, à la fin, on a la vision de Bruno Le Maire qui vous dit vite avant que Clemcé balance le code de ta carte bleue. Donc je sais qu'on dit votre art vous survivra. Pour Lagerfeld, ça marche, mais moi, 3-4 chroniques sur France Inter écoutées à 12h10 par des gens qui sont en train de bouffer. Je suis l'humoriste de la lèvre pendante et du jus de poulet sur le menton. Oh. Il va rien rester de moi. J'ai le même potentiel pour passer à la postérité que le chanteur de Touré Kunda au sein du petit monde des identitaires. Alors si je me suis trompé et qu'il y a un paradis là-haut, on va me dire faites la queue, on a des artistes qui ont plus marqué leur époque à faire rentrer avant vous. Je dirais qui? On me répondra Ophélie Winter, Joël Ursule, le chien de Télé Z. Je dirais vous déconnez, j'ai quand même fait France Inter, la radio de Daniel Morin. L'ange me répondra, je sais pas, on est trop haut ici, on capte pas. Et puis Daniel qui? Je dirais Daniel Morin. Me dites pas qu'il est pas dans le fichier, je peux pas être mort avant lui, il est 58. L'ange répondra, si, j'ai votre fiche. Le 2 mars 2046, vous avez regardé un vieux taratata en rediffusion sur TV Mélodie. Il y a eu un duo Zaz Black M, le cœur a lâché. Daniel Morin, au même moment, je regarde sa fiche, était chez Emmaüs afin de renouveler sa garde-robe. Il est donc vivant. C'est pour ça que je suis contre la mort, Nagui. Parce que c'est affreux de se dire qu'on est là, tous à faire des blagues avec des fortunes diverses. Et qu'un jour, on n'existera plus. Marlène Schiappa et Cyril Hanouna auront repris la tranche avec l'émission « Des nouilles dans ta culotte » qu'aura accepté Inter après l'obligation qui lui aurait été faite de réaliser 80% de parts de marché avec 230 euros de budget par an. Le seul avantage quand on décède, c'est 1. qu'on a pu asfarcir la corvée de vaisselle, 2. qu'on va mourir en même temps que la planète, si on est un peu mégalomane, c'est un gros kiff, 3. qu'on laisse de l'argent à ceux qu'on aime. Karl Lagerfeld, par exemple, a légué en 2015 une partie de sa fortune à Choupette, sa chatte, qui a un compte Instagram avec 130 000 abonnés. Ouais. Pour vous donner une idée, Édouard Philippe n'en a que 46 000, pour un poil bien moins soyeux d'après ses proches. Elle a tourné dans des pubs, a gagné 3 millions d'euros rien que sur 2014, bloqué sur un compte. Lagerfeld disait n'y avoir pas touché. Donc la bestiole se retrouve à la tête d'un magot. Sitôt le deuil digéré, ça va être la folie. Elle va faire une orgie de whiskas aux petits légumes, dorée à la feuille d'or par Ribéry, racheter la moitié de Chaville et passer le reste de sa vie à glander. Une existence de rêve.
Mais est-ce qu'on a le droit de nommer un animal comme son héritier?
Non, en France, non, parce qu'on vit dans le déni. On pense qu'un enfant est mieux qu'un animal de compagnie. Alors que pas du tout. Prenez un poisson, il vit dans l'eau, une fois par jour, vous lui donnez à manger. Philippe Lucas a longtemps fait la même chose avec leur manodou. Bah, il était heureux. Hein. Jamais vous n'aurez à vous rendre aux réunions parents-profs de votre teckel. Ou alors c'est soit que le teckel est très intelligent, soit que vous vous êtes pris pour Camille Alban et avez raté votre fils à un point tel qu'on le prend pour un teckel. Quand il passe devant la boucherie, les mecs lui jettent du gras de jambon. Mais dans d'autres pays, ça se fait. En Allemagne, en 91, le chien de la comtesse Carlotta Liebenstein, qu'aujourd'hui des comptes agréent en pensant soit qu'elle est juive, soit que c'est une chaîne de bagels, a légué l'équivalent de 70 millions d'euros à son chien Gunther III, un berger allemand. Forcément, hein, c'est aussi logique que si Jean Lassalle, à sa mort, léguait ses tickets resto à un berger des Pyrénées. Gunther III a fait de bons placements. Il est allé à la Barclays, a dit « Maintenant, les mecs, c'est fini l'époque où je restais devant la porte attaché. » Résultat, le fils de Gunther III, Gunther IV, les noms des chiens, ça marche comme pour les rois, hein,
ouais,
a touché à la mort de son père 300 millions d'euros. Donc, en théorie, Gunther V sera plus riche que Bernard Arnault. Hein, Oprah Winfrey, la Evelyn Thomas américaine, mais en un peu cheap, a prévu, elle, de léguer 27 millions de dollars à ses chiens. Donc Lagerfeld, qui était français mais un peu tout en même temps monégasque allemand, se retrouve donc, bah Choupette se retrouve donc avec une somme d'argent démente à gérer. Si en 2022 c'est la France insoumise qui passe, ils vont lui prendre 80% de ce qu'elle a et la foutre à la SPA. pas. Hein. Mais pour l'heure, ça sent la descente aux enfers. Elle va flamber, tomber dans la drogue. Un matin, on va la retrouver en train de sniffer sa litière. Puis, comme toutes les stars, elle finira névrosée et expliquera à la chaîne Animaux qu'elle a des doutes sur l'identité de son père. Hein, qu'elle a des flashs dans lesquels elle se voit en cache chez Truffaut, à côté des lapins nains. Son maître, Karl Lagerfeld, n'est plus. Reste de lui son empreinte sur la mode, qu'un homme élégant comme Michel Denisot doit cerner. Hein, moi, quand je mets du gris et du marron et qu'on me dit que ça va pas ensemble, je comprends pas. Bref, mourir c'est simple, passer à la postérité c'est autre chose.
Merci Tanguy
Bassion.
C'est bien senti tout ça. Vous avez une, vous avez rencontré Karl Lagerfeld évidemment.
Ah oui, oui.
Vous en gardez quel souvenir, Michel Denisot?
Ben, de quelqu'un quand je l'ai rencontré, surtout j'ai rencontré dans des émissions, j'ai reçu plusieurs fois en plateau au fil des années, et puis à Vanity Fair on faisait beaucoup d'opérations avec Chanel et Karl Lagerfeld, et c'est quelqu'un qui est extrêmement vif, extrêmement rapide. J'ai pas beaucoup de gens pour en parler beaucoup mieux que moi, donc simplement les rencontres que j'ai avec lui étaient à la fois attentionnées, c'est-à-dire qu'il vous parlait de vous avant de vous parler de lui, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Et puis après, quand on avait des décisions à prendre, ça allait très très vite et c'était souvent très juste, évidemment, la plupart du temps très pertinent. Et
voilà. Vous êtes à la tête de Vanity Fair.
Et assez moqueur.
En plus, ouais, d'accord. Ouais. En termes de mode, il est remplaçable chez Chanel tellement il incarnait la marque.
Oui, ben il a remplacé quelqu'un qui était irremplaçable. Enfin, il a succédé à quelqu'un qui était... Donc, tout le monde laisse sa marque et tout le monde est remplacé.
Il faut, il faut laisser un peu de silence. Après.
Enfin, pas une heure non plus.
Non, pas une heure non plus. Nous avons demandé à Elisabeth Tanner et François Samuelson de rester avec nous. Merci de prendre sur votre précieux...
Bon, ce sera facturé, Nagui.
précieux temps. On parlait
avec majoration.
On parlait tout à l'heure justement de football. François Samuelson évoquait la diversité, entre guillemets, du rôle d'un agent. Pourriez-vous être agent de d'autres professions qu'acteur ou que chanteur? Vous êtes avec des chanteurs, vous aussi.
Donc je ne gère pas la carrière de chanteur.
Ah, vous ne vous occupez de Patrick Bruel que comme comédien, jamais comme chanteur.
Absolument.
D'accord. Donc vous pourriez être agent de footballeur, puisque c'est un métier très exposé aujourd'hui.
Ah, moi, je peux répondre non, parce qu'il faut une patience que je ne crois pas avoir.
Et une connaissance aussi, j'imagine, du milieu en particulier.
Oui. Et puis un interprète.
Non, c'est la connaissance du milieu. Mais c'est intéressant ce que dit Nagui, parce que moi, j'avais fait un rendez-vous une fois avec Noël Le Graët.
Ouais. Président de la Fédération Française de Foot.
Voilà, et qui était le beau-père de mon associé, Laurent Grégoire. Ouais. Et qui m'expliquait que les agents de footballeurs, c'était vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire des gens qui opéraient de manière quasi délictueuse.
Et il y a même des grosses affaires là-dessus.
Je cite.
Non, mais c'est vrai.
Et ce qu'il avait marqué, c'est de voir comment nous exerçons notre métier, c'est-à-dire avec professionnalisme dans un cadre juridique extrêmement précis, puisque nous exercions par dérogation au monopole de ce qui s'appelait la NPE, puisqu'on fait du placement d'employés.
D'accord, ouais.
Et donc lui, ce qu'il voulait par ses témoignages, c'était de calquer cette méthodologie pour les agents de footballeurs. Et je crois qu'il y est arrivé, mais là j'ai pas suivi l'histoire, parce que je préfère voir les matchs.
En tout cas, ça veut dire que
clairement, il faut une connaissance du milieu. C'est-à-dire que nous, on arrive, alors tout à l'heure je vous entendais dire ça, quand on travaille, il y a une partie qui est la connaissance et une forme d'empirisme qui ne vient pas de nulle part, qui est aussi une accumulation de sensations, d'intuition, de connaissances, qui font qu'on est plus performant que quelqu'un qui arrive.
Voilà, c'est exactement la question aussi que je voulais vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre intuition, dans votre manière de diriger la carrière? Et je crois d'ailleurs que c'est vous, Elisabeth Tanner, qui le dites dans Profession agent artistique ce soir, dans l'émission de Michel Denisot, que vous acceptez ou refusez des projets en fonction de ce que vous pensez être bien pour la carrière de l'actrice, l'acteur, au moment où on lui propose. Et donc vous avez une vision, une lecture du projet.
Bien sûr, c'est-à-dire que quand on a un projet qui arrive, bon, alors, évidemment, si c'est très très mauvais, la question ne se pose pas. Mais sur des projets qui peuvent être intéressants, on voit, par exemple, on peut refuser un projet pour quelqu'un et le faire passer à quelqu'un d'autre. Mmh. et pas du tout avec cynisme dans le genre « je garde le projet, je garde la commission, je garde la main ». Uniquement parce que pour quelqu'un, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. Et pour quelqu'un d'autre, c'est le moment où ça.
Mais ça peut détruire un acteur de.
Non,
de,
parce
ou une,
qu'on.
Ou une
non, 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 parce que c'est une discussion qu'on a. Vous savez, on n'est pas des dresseurs. C'est-à-dire, on leur dit pas, vous faites comme on a dit. C'est une conversation. Donc, c'est aussi tout ce qu'on entend de l'autre. Parfois, on peut pousser quelqu'un à faire un film qu'il est en train de refuser pour des mauvaises raisons.
Est-ce que c'est un don de savoir lire
Non, c'est du travail et l'expérience.
Non, mais lire sans savoir quelle sera l'image. Je repense au film qu'on vous encourage à voir aujourd'hui, d'ailleurs, que ce soit Grâce à Dieu ou que ce soit Le Chant du Loup, qui sont deux films totalement
dingues. Oui, que j'ai vu et qui sont absolument
sublimes,
incroyables.
Sublimes, l'un comme l'autre, dans deux styles totalement différents, mais voilà.
Black Snake.
Essentiel à voir. Mais le Chant du... Oui, le Chant du Loup.
C'est Antonin Baudry, justement.
C'est un premier film. Comment lire le projet en se rendant compte du rendu cinématographique et en disant oui, vous devez y aller sur ce projet-là.
C'est l'intuition. C'est justement. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est le producteur.
Il n'y a pas d'université, c'est du pif.
Jérôme Sédou ?
Non, c'est Alain Attal surtout.
D'accord.
Chifoumi.
Voilà, vous savez qu'il y aura l'argent parce qu'il y a Sédou derrière, mais vous savez aussi qu'il y a un producteur qui est un bon producteur, un excellent producteur qui est Alain Attal
oui.
Avec Hugo Sélignac. Et là-dessus, vous faites un pari. Antonin Baudry n'avait effectivement pas fait d'image, mais c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance du terrain, donc il pose des enjeux. Le scénario était bien. Donc à partir de là, dans un genre qui n'a jamais été fait en France en plus. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une somme aussi d'expérience et de paris.
Et ouais, d'intuition. Ouais.
Et de paris.
Un agent qui va bien, c'est un agent qui a un fichier garni ou en tout cas.
Je déteste la notion de fichier.
Oui, alors on entend alors dans le documentaire, certains parlent de clients. D'autres parlent d'acteurs qu'on accompagne. Alors, je ne sais pas la terminologie que vous préférez.
C'est la même chose. Un client, ça veut dire qu'on est au service de...
D'accord.
Nous sommes au service de nos talents.
Donc, vous avez des talents dont vous vous occupez. Et vous racontez dans le documentaire qu'il y a un rapport aussi générationnel qui est établi. C'est-à-dire que souvent, vous avez commencé avec des gens de votre génération. La question que je me pose, c'est comment on fait pour continuer à être agent renouvelé
tout
aussi.
En vieillissant.
Oui, parce qu'on a une jeune femme sur le plateau.
Embaucher des jeunes assistants.
Ah, c'est ça, pour recruter.
Je crois que la voie royale pour devenir agent artistique, si c'est ça le fond de votre pensée, c'est d'être assistant d'un agent senior.
Ouais.
Et comme ceux qui sont seniors représentent beaucoup de monde, puisque le succès appelle le succès comme l'argent appelle l'argent et l'agent. Et donc, du coup, à partir de là, l'agent se retrouve dans une situation de super plein emploi. Donc, il a besoin d'avoir des assistants qui vont, eux, parler beaucoup plus à des clients moins importants.
Ouais.
Et c'est ainsi que les choses se font.
Et puis, vous êtes arrivé à un certain degré, on va dire, de maturité, pour ne pas dire autre chose.
D'expérience.
C'est vrai que parfois, moi, je le vois, j'ai quelques très jeunes acteurs où... Je vois où ils vont, j'ai aucun problème à les amener quelque part, mais l'interlocution avec eux est quand même limitée au travail, parce que si vous voulez, vous vous sentez un peu décalé par rapport aux enjeux. Moi, je ne vais pas aller en boîte de nuit jusqu'à 5h du matin. Déjà, quand j'avais 20 ans, je ne le faisais pas. Mais donc il y a effectivement des assistants qui sont générationnels, qui ont les goûts générationnels, qui vont voir des choses qui, moi je le dis, je ne suis pas cœur de cible, donc voilà.
Qui sont sur les réseaux,
mais à
qui
un moment
se
donné,
au courant de ce qui
vous
se passe.
Entendez et vous voyez même,
la tendance.
Ça me fascine, c'est que même dans une profusion parfois, quand on a eu la période très youtubeur dans tous les coins, c'était quand même assez simple pour nous de voir ceux qui avaient du talent et ceux qui étaient quand même... des petites copies, on va dire. Donc voilà, donc c'est un mélange d'écoute aussi.
Et vous fixez une limite aussi en termes de nombre d'acteurs que vous avez décidé d'accompagner, justement parce que c'est aussi un message qu'on envoie à la profession, de se dire d'en avoir trop.
Il faut être disponible.
Ouais.
Oui, je crois que c'est votre limite, c'est votre limite physique. Ouais,
voilà, c'est
les limites
de travail. C'est le talent qui la met. Quand vos talents disent on ne peut plus vous parler, là, il faut s'inquiéter un peu.
Ouais. Avant de vous libérer, puisque on n'a pas
les
moyens de vous
d'être marrant dans l'émission avec Besnéa, parce qu'à un moment, il dit c'est incroyable, aujourd'hui, les gens s'écrivent, il faut se téléphoner, alors que lui était le gars le plus injoignable du monde. Je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir dit dans l'émission, mais je trouvais qu'il était quand même culotté, Dominique.
Oui, mais ce que tu oublies de dire, c'est que Dominique quand même que j'ai pratiqué beaucoup. Dominique était injoignable au téléphone, mais toujours sur cette espèce d'ambivalence.
Mais il y avait Elisabeth qui répondait.
C'est dans cette ambivalence de travail qui est qu'effectivement, notre travail est plus d'aller vers l'extérieur, d'aller parler à des metteurs en scène, d'aller parler à des producteurs, ouais, de s'inquiéter de ce qui va se passer, de discuter vers l'extérieur, ouais, de récupérer une information que de parler pendant des heures à nos talents.
Une question commune, Elisabeth Tanner, François Samuelson, quelle est votre fierté en tant qu'agent aujourd'hui dans votre métier, Elisabeth Tanner?
Fierté personnelle?
Professionnelle, oui.
J'espère qu'elle est devant moi.
Il n'y a pas une réussite, fierté. Y a pas une réussite particulière.
Vous pouvez m'appeler Daniel.
Non, c'est moi.
Si, il y a plein de réussites. Non, c'est comme quand on nous retenir... demande quel est le meilleur souvenir. Moi, j'en ai plein et j'en ai pas un exclusivement et j'ai pas surtout envie de citer
Est-ce que c'est un trophée? Est-ce que c'est un projet qui partait mal et finalement qui a pu quand même voir le jour? Est-ce que c'est d'avoir réussi?
Oui, c'est
réuni...
plutôt des batailles sur les films que des trophées.
D'accord.
Trophée, c'est aléatoire.
Moi, c'était d'être assis à côté de Juliette Binoche le jour où elle a reçu son Oscar, alors qu'elle était la première française.
Ouais.
Le premier des deux.
C'est dans l'émission.
Et c'est raconté dans l'émission. Ouais. Et alors, quel est votre plus grand regret ou loupé? Parce qu'il y en a aussi, j'imagine, des loupés, des scénarios que vous avez lus.
On essaye de les oublier.
Non, mais d'accord. Mais est-ce que vous avez déjà dit à une comédienne ou à un acteur, ne fais pas ce film, et en fait, il ou elle aurait dû, et c'était un...
Oui, mais enfin, quand on a le cuir un peu épais, je veux dire, s'il n'a pas écouté et qu'il s'est planté, c'est son problème. Hein. Il y a un moment, vous voyez, il faut qu'il soit responsable.
Vous lui avez dit, ne fais pas le film, et il aurait dû le faire.
Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de quoi ne pas dormir la nuit à cause de ça. C'est plutôt lui qui est ennuyé, c'est pas vous.
Vous n'avez pas de regrets?
Bah, des regrets, non, c'est plutôt à eux d'avoir des regrets. Il y a un moment, justement, faut pas rentrer dans cette espèce d'identification, ouais, où on devient l'artiste à la place de l'artiste.
Donc c'est-à-dire vous avez que un droit sinon... à l'erreur aussi,
c'est-à-dire... Non, mais c'est-à-dire que sinon, on les infantilise. Donc il y a un moment, c'est des artistes, ils sont des grandes personnes, ils sont des adultes, ils peuvent aussi prendre des décisions dans leur vie. C'est-à-dire que, je veux dire, l'une des dérives de notre métier, c'est de croire qu'on doit s'occuper de tout. D'ailleurs, avec ce discours-là, vous remarquerez, je représente peu d'acteurs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
François, vous devez gérer aussi des situations de crise. Je pense, à Roman Polanski. Ça ne doit pas être simple quand il y a quand l'actualité ou
problème...
des débats qui se font sur lui. Vous devez gérer ça aussi.
Oui, mais là, c'est un problème d'époque. C'est-à-dire que quand vous retrouvez à la Cinémathèque et que vous avez des gens qui vous disent Polanski, Dutroux, DSK, même combat. Vous dites, ça y est, c'est comme les insultes antisémites contre Finkielkraut. Là, on sort du cadre. Et sur Roman Polanski, vous essayez d'expliquer de quoi il en retourne. Les gens sont endormis au bout de deux minutes, alors que l'histoire est malheureusement plus complexe que ça.
Je voulais juste dire, je pensais au regret. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est jamais directif à ce point-là. On peut conseiller, et quand quelqu'un est très accroché à un projet, même si on lui dit de ne pas le faire, ou l'inverse... c'est quand même lui en dernière minute et en ultime décision.
Est-ce que Sophie Marceau tournera un jour avec François Ozon à ce micro?
Oui, je sais qu'à ce micro, puisque je l'ai vu le soir. Donc, Sophie, mais François...
Il a dit qu'il lui avait proposé Potiche et qu'elle aurait mieux fait d'accepter.
Mais je comprends très bien pourquoi François dit ça, et c'est des conversations que j'ai eues avec lui. Je pense que si elle a dit non, elle a eu raison, et que si elle avait fait le film, ça n'aurait peut-être pas été le même film, et ça n'aurait peut-être pas été la même histoire, et c'est toujours ce que je dis à un acteur qui refuse un film. Voilà, ça peut être une autre histoire.
Ah, c'est une belle réponse. On vous retrouve ce soir, François Samuelson, Elisabeth Tanner, merci d'être resté avec nous. Ça sera dans Profession agent artistique, produit et présenté par Michel Denisot sur Canal à 22h55, avec des talents réunis, de l'intelligence réunie, ce qui n'est pas le cas de Daniel Morin.
Merci, voilà.
Le lancement.
Et aujourd'hui, mes amis, je vous propose de nous pencher sur une grande question, un incontournable de notre époque. Le complotisme, la théorie du complot, les théories du complot sont-elles aussi farfelues que ça? Et où commence le complotisme? Et où finit-il? On peut se poser la question. Oui, peut-on, car ne soyons pas dupes, il n'y a pas de hasard. Tout est lié. Démonstration. Hier, alors qu'il était en train d'écrire son livre sur le mannequinat, livre intitulé « Obèse à 45 kilos », Karl Lagerfeld s'est éteint de façon aussi inattendue que mystérieuse à seulement 85 ans. Inattendu? Ouais... Mon œil. Ah. Comme par hasard, quelques heures plus tard, Alexandre Benalla est placé en détention provisoire. Coïncidence? Ouais. Mon cul. Peu de gens le savent, mais Alexandre Benalla, maître du camouflage et de la dissimulation, avait depuis plusieurs temps poussé son talent au rang suprême. Le chat de Lagerfeld, Choupette, dont Tanguy a parlé avec l'émotion toute zoophile qu'on lui connaît, Choupette n'était autre qu'Alexandre Benalla lui-même. Parfaitement, Alexandre Benalla pouvait se transformer en petite chatte blanche sans que personne ne s'en aperçoive. L'idée de se transformer en Choupette est venue à Benalla quand Lagerfeld a déclaré qu'il avait désigné la chatte comme unique héritière. Ni une ni deux, Benalla renifle la bonne affaire. Pendant des mois, il s'entraîne au miaulement, aux assouplissements, à se laver les parties intimes à la langue et surtout à rentrer dans une combinaison de chats de 5 kilos. Une fois au point et grâce à ses relations chez les Barbouzes, en 2017, Alexandre Benalla s'introduit chez le couturier et pour ne laisser aucune trace, il bouffe Choupette et prend sa place dans le panier. Pendant des mois, chaque soir, il supporte les caresses à bagouze de Monsieur Karl, il bouffe de la croquette et fait caca dans une litière. Hier, la nouvelle de la mort de Lagerfeld tombe. L'entourage du génie chanélien s'est effondré. Effondré mais attentif, son secrétaire particulier remarque quelque chose d'étrange dans le comportement de Choupette. Alors que tout le monde pleure le grand Karl, Choupette est dans le salon en train de lire l'équipe. Erreur fatale, tout le monde le sait, les chats détestent le sport. 30 minutes plus tard, le GIGN arrive, arrache la combinaison féline et passe les menottes à Benalla. Après un rapide examen, on retrouve une boule de poils dans la bouche de Lagerfeld. Benalla, suspect numéro 1, est assis en détention. Une fois en détention, il fait connaissance avec son camarade de cellule. L'homme en question est le père Prénat, curé pédophile et star expiatoire du dernier film de François Ozon. Jaloux du statut de son compagnon d'infortune, Benalla, qui n'est pas la moitié d'un con, hurle dans les couloirs de la prison « Eh, moi aussi je suis pédophile, moi aussi je suis une vedette !» Le problème c'est qu'en prison, les pédophiles deviennent rarement des vedettes. Sauf peut-être à l'heure de la douche ou là, il arrive qu'ils deviennent hyper populaires. Alors, complotisme ou hasard ? Est-ce le vrai Benalla en prison ou bien s'est-il transformé en animateur télé karaoké France Télé pour faire passer des messages codés, des infos pour débloquer des comptes en Russie, fruit d'un trafic d'armes avec les pays d'Afrique ?
C'est ça.
Personne n'en sait rien, c'est sûrement mieux ainsi. À demain ou pas.
Merci Daniel Morin. Merci mille fois Michel Denisot d'avoir pris le temps de venir et puis d'avoir invité ces agents artistiques passionnants. Et c'est, on va retrouver cette passion justement et tout cet intérêt ce soir à 22h55 sur Canal. Votre premier long métrage, cette comédie autour de la télévision, sortira quand ?
Le 6 novembre.
La date est arrêtée, ça s'appelle Toute Ressemblance.
Ça s'appelle Toute Ressemblance, ouais. Donc je suis en montage, donc c'est un long chemin. Quand on m'a dit qu'il fallait 3 ans pour faire un film, on est habitué, nous, en télévision, aussitôt dit, sitôt fait. Cinéma, c'est pas ça. Et donc, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je pense que c'est même mon plus grand plaisir
Dubosc,
professionnel.
Jérôme Commandeur, Katrina Mourino, Denis Podalides, Sylvie Testu.
Oui.
La classe.
Oui, c'est très éclectique et c'est comme je le souhaitais en tout cas. Et bon, c'est une comédie assez cynique sur le monde de la télévision et c'est pas un documentaire. Mais
et qui sortira le 6 novembre. C'est un hasard si c'est l'anniversaire de Canal.
Non, je crois que c'est pas. En plus, Canal n'est pas du tout dans l'histoire.
Est-ce que certains animateurs ont tenté de bloquer la sortie du film?
C'est l'histoire d'un présentateur de 20h.
Ah. Non. Merci Michel, portez-vous bien. Rendez-vous ce soir donc sur Canal et demain, Marc Lavoine et Sophia et Saïdi seront nos invités. Pardon pour cet énorme retard.
Ah oui, mais il n'y a pas de pub aujourd'hui, c'est bon.
Mais quand même, vas-y, il est l'heure.
Et vous avez poussé les basses sur le micro de François Samuel.
Il a une voix de dingue.
Oh là là.
Insensé, ouais.
Comment il fait ?
On dirait Gene Vincent qui chante tout y frotter.
Salut les amis, à demain.
Merci.